Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Deuxième émission avec l'interview de Gérard Bonnet sur la psychanalyse.
Alors, deuxième partie, Gérard Bonnet, il y a un livre de vous qui m'intéresse tout particulièrement, c'est votre ouvrage sur les idéaux fondamentaux. Vous y montrez d'ailleurs comment Freud lui-même fut sensible à ces idéaux qui nous mènent, ayant évidemment une correspondance avec ce qu'on appelle le désir, et parfois, malheureusement, se retourne contre nous. Mmh. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous parler de ces idéaux dits fondamentaux dont vous avez à la fois le courage et la perspicacité de les décortiquer pour nous, pardon. Perspicacité parce qu'ils sont très complexes et courage parce qu'on a dû vous accuser de céder à un certain moralisme. Alors.
Voilà. Ça fait bien des années que je travaille sur cette question des idéaux parce qu'elle n'est pas très, très élaborée encore chez Freud. Hein. Il perçoit, il les cite, il les met en lumière, mais ça a été un petit peu écrasé par la théorie du surmoi. Hein. Il faut pas, par le légalisme un peu lacanien qui dit qu'il y a la loi, etc. Et tout ça est un peu trop général à mon sens, alors qu'on a des clés pour comprendre énormément de mouvements psychiques qui sont déterminants pour l'être humain. Hein. Alors, je vais dire tout de suite, pour moi, les idéaux fondamentaux, c'est l'amour, hein, qui est un idéal premier vital, sans lequel l'enfant ne peut pas survivre, c'est pas compliqué. Hein. C'est la vérité, qui est aussi, curieusement, indispensable à l'être humain pour survivre. Enfin, Dolto en a fait sa... Son cheval de bataille, hein, en disant un enfant qui n'est pas dans la vérité, qui ne vit pas la vérité autour de lui, il faut lui dire la vérité. Alors il faut voir comment, mais en tout cas c'est essentiel. Il y a la beauté, alors là aussi c'est pas facile à expliquer, mais en tout cas on voit un enfant dès le début et par la suite, nous ne pouvons pas vivre sans un environnement qui exprime des harmoniques vivantes, dynamisantes, qui sont pour nous essentielles et qui font que l'art, depuis la nuit des temps, occupe une place considérable. Mmh. Et puis il y en a un quatrième qui n'est pas facile, ce que Freud appelle la Selbstständigkeit, c'est-à-dire la souveraineté, c'est-à-dire l'idéal d'être soi, chez soi, d'avoir une possibilité de s'exprimer à part entière. Hein, c'est-à-dire l'authenticité, mais au sens de la possession d'un territoire, si vous voulez. Comme l'enfant a besoin d'un territoire, d'un lieu à lui.
Sa maison. Quoi.
Sa maison. Et c'est important parce qu'il va le garder toute sa vie, enfin ce que j'appelle l'appareil psychique originaire. Mmh. Hein. Donc ce sont quatre idéaux, la liberté, si vous voulez, on peut dire aussi ça, sans lesquels on ne peut pas vivre. Et quand on les reprend dans la vie psychique, on s'aperçoit que d'une part, ce sont des moteurs, on cherche la beauté, on cherche la vérité, avec des métiers quelquefois qu'ils favorisent, le nôtre étant celui de psychanalyste, la vérité bien sûr qui est dominante, et avec à la fois une poussée vers ça, et en même temps une ouverture vers une perspective qui n'est jamais atteinte. Et alors, ma préoccupation, c'est de faire comprendre que les idéaux sont essentiels, qui ce sont presque des objets d'origine, qui sont là inscrits en nous dès le départ, et en même temps qu'on ne doit jamais les confondre avec quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun objet, aucune personne, aucune structure qui va y correspondre. Or, on a toujours tendance à confondre, à dire par exemple, lui, il a la vérité, lui, c'est la vérité. Bon, et la religion a un peu pris ça à son compte, hein, et quelque part, ça favorise l'émergence de la vérité, mais à condition qu'on se dise, non, mais non, elle va plus loin que la personne. Donc le gros travail, et on le voit en analyse, moi je vois des gens qui sont écrasés par le travail, le burn-out, parce qu'ils sont pris par leurs idéaux, il faut que je réussisse, il faut que je montre que je suis le meilleur, et ils s'écrasent. Autrement dit, les idéaux sont à la fois des vecteurs, des poussées, et heureusement qu'on a envie de beauté, d'amour, etc., mais peuvent être des drames si on les confond Par exemple, la passion, c'est confondre l'idéal d'amour avec une personne. Hein, ou si on se laisse complètement envahir par eux. Hein, c'est-à-dire, finalement, la personne qui se dit « si j'ai pas la beauté parfaite, je ne vais, et combien de femmes sont malheureuses ?» s'écrase parce qu'elles ne sont pas les plus belles. Enfin, c'est terrible. Hein, c'est la mère de Blanche-Neige, pour prendre des vies très simples. Donc voilà, pour moi, je crois que dans le monde actuel, où forcément toutes les structures qui ont porté les idéaux jusqu'à maintenant, donc les religions, les morales, les philosophies,
la politique,
ont tendance à les mal les vivre, ou tout au moins ne sont plus à la hauteur. Je crois qu'il faut les dégager de toutes les structures possibles et imaginables, et dire, il faut les récupérer. Chaque sujet doit les récupérer.
Pour les rendre vivants.
Voilà, et les vivre dans son monde, et encore une fois, en faire une dynamique. Et je vois, pour moi, dans l'analyse, d'ailleurs ça me frappe énormément, je le dis souvent, que la plupart des analyses se terminent par une redécouverte de la culture. C'est un des points qui me stupéfie. C'est-à-dire que la beauté, tout à coup, reprend ses droits. Et voilà des gens qui sont venus pour des problèmes quelquefois terribles au niveau, justement, angoisse, dépression. Puis après avoir beaucoup travaillé sur eux-mêmes, bon, alors bien sûr, c'est la vérité qui les a portés à travailler sur eux-mêmes. Puis un jour, la beauté vient faire contrepoids. Parce qu'il y a aussi ce problème, qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un seul idéal. Un seul idéal devient vite totalitaire.
Il faut un tissage entre...
Voilà, hein, dire je veux la vérité, rien que la vérité, ça c'est dangereux. Parce que rien que la vérité fait qu'on va négliger l'amour, on va négliger la beauté, on va négliger quelquefois l'authenticité de la personne. Bon, voilà.
Ça fait penser à la vérité à tout prix, à la question au Moyen-Âge.
Voilà, hein, comme s'il y avait une vérité absolue à laquelle on soumettait la personne, et alors, au point de la tuer, vous voyez, là encore, on a un idéal qui, tout à coup, devient destructeur. Et je crois que, vous voyez, j'ai beaucoup parlé de ça dans mes livres, les attentats actuels, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu quand même quelques échos dans les médias, parce que les attentats actuels, c'est au nom des idéaux. Hein, bon, et actuellement, si on peut anticiper là-dessus, je ne sais pas, ce qui se passe, quel est le plus grand reproche qu'on fait à nos dirigeants, c'est le mensonge. Ils nous annoncent des choses, ils font le contraire. Ça fait des années qu'on dit ça. Hein, alors, il faut voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, c'est la pensée du peuple. Et du peuple qui, justement, a besoin de vérité pour pouvoir se situer dans l'existence.
D'où les théories du complot, hein, qu'on critique, mais qui recoupent sûrement une réalité, en tout cas un ressenti des gens, quoi. C'est-à-dire qu'on leur donne une version des faits, et puis en fait, c'est autre chose qui se passe.
Mais vous savez, je crois que Machiavel n'a rien inventé. Hein. L'art de gouverner, c'est l'art de mentir. Hein. C'est terrible. Mais ça doit être tempéré, justement, constamment, par la réaction du peuple, disant, bon, on sait que vous mentez. Mais allez-y, on va vous prendre au piège, parce qu'il faut quand même que du mensonge sorte la vérité. Hein. C'est toute une dialectique qui est extrêmement complexe, mais qui est nécessaire dans la démocratie.
Alors justement, maintenant que... Ah oui, juste un dernier point sur le... Je pensais, parce que je l'ai entendu plusieurs fois... lors de vos cours, c'est intéressant de parler de la perversion, parce que justement le pervers, par exemple le pervers sexuel, malgré les apparences, et c'est un paradoxe, c'est parce qu'il a un idéal que la perversion peut fonctionner et il peut en tirer une jouissance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement là-dessus ?
Oui, alors là, c'est un aspect. Oui, c'est pas évident à première vue, parce qu'on dit que ce sont des salauds, enfin, hein, ce sont des gens qui. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en fait, il y a chez le pervers une notion de l'idéal, mais justement, une notion de l'idéal à enfreindre. Hein. Le plus simple, le plus, parce que je viens de le travailler au niveau du deuil, justement, c'est le nécrophile. Hein, celui qui va déterrer les cadavres et s'en repaître. Enfin, on se dit, et bien justement, l'idéal de respect du mort, l'idéal qui est un idéal vieux comme l'humanité, en faisant ça, il jouit de l'idéal à l'envers, si vous voulez. Bon. Et on pourrait dire la même chose, par exemple, avec les histoires de pédophilie actuelles, hein, en particulier dans l'Église, et ça se comprend d'autant mieux dans l'Église, c'est que l'enfant est idéalisé. C'est que c'est un enfant merveilleux. Les trois quarts du temps, les prêtres accusés disent « Mais oui, mais il était tellement mignon, il était tellement super, enfin. » Alors, on se le fait. On se le fait parce que c'est un plaisir. Alors, vous voyez, on est bien dans la ligne de l'idéal, c'est-à-dire cette chose irremplaçable, incommensurable, j'en fais ma chose. C'est-à-dire, je me l'approprie, je me la bouffe, quoi, quelque part. Parce qu'il y a aussi toutes les autres tendances qui sont derrière. Mais ça, c'est... Et pareil, donc, quand on parle des problèmes entre hommes et femmes aujourd'hui, des séductions, c'est du même ordre. Les mêmes hommes vous disent, mais je l'adore, cette femme. Enfin, j'ai un respect infini. Mais j'ai d'autant plus de respect que quand je peux me la faire, elle est devenue ma chose et je peux me l'approprier. Donc, on est bien dans le domaine, vous avez raison, là, de reprendre ça, parce que c'est une chose qu'on ne contrôle pas assez. Une autre opération que je connais bien parce que j'y ai fait ma thèse, c'est l'exhibitionnisme. C'est la pudeur. C'est se servir. Vous voyez, la jeune fille qui est offensée comme ça, c'est pas bien méchant, on dira. N'empêche qu'elle est blessée dans sa pudeur. Et lui jouit de blesser la pudeur de l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, cet idéal aussi, qui est un idéal primaire, hein, eh bien, il le galvaude. Et en fait, alors là, moi j'ai dit aujourd'hui, il ne fait que refléter la société telle qu'elle se passe, hein, dans le monde. Aujourd'hui, on ne fait que ça. La pudeur n'existe plus. On en jouit.
C'est la marchandisation.
Voilà, la marchandisation du corps, on le monte, on en profite, tout ce qu'on veut, quoi.
Hein. Je pense aussi, il y a l'exemple de Fourniret qui attrapait que des vierges. Oui, c'était son idéal, la virginité.
Oui, oui. C'est son idéal, mais c'est, enfin, on en rit, mais c'est terrible, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux chez la personne qui va le faire jouir, qui va lui donner un plaisir extraordinaire. Et tant qu'il n'a pas complètement, et lui, alors le fournira, il n'a pas l'air d'avoir dépassé la chose, hein, il va rester, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est là, vous voyez, là ça réveille quand même, ça révèle quand même que l'inconscient existe. Parce que c'est vraiment une appétence qui nous paraît absurde. C'est vraiment l'inconscient qui pousse à ça, quoi. Quand il n'est pas contrôlé, quand il n'a pas les structures qui nécessitent un minimum de contrôle. Donc, on dit, voilà, pour moi, la perversion est de l'inconscient mis à jour, quoi. Hein.
Et puis, vous avez montré aussi que le pervers, il y avait une forme de vengeance aussi. Justement.
Oui.
C'est quand même aussi des gens qui ont vécu. Moi, une fois, j'avais lu un article sur des psychopathes américains, et on racontait leurs histoires, leur enfance. C'était absolument, mais terrifiant. C'était des choses incroyables. Donc, on fabrique en fait des psychopathes, et le psychopathe, il est obligé de se venger en attaquant justement l'idéal.
En faisant à l'autre ce qu'on lui a fait.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant est très sensible aux idéaux, par exemple de pudeur, celui que je connais le mieux parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup travaillé. L'enfant qui a été dans une atmosphère où il n'y avait pas de limite, où on pouvait profiter de lui comme on voulait, mais par des petites choses quelquefois, hein, mais qui se répètent, eh bien, ne peut pas s'en sortir sans faire vivre à l'autre ce qu'il a ressenti. Et c'est incroyable parce que ça va jusqu'à... En fait, quand j'ai eu en analyse des exhibitionnistes, et au début, ils justifient en disant, bon, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ont été victimes eux-mêmes d'impudeur, de gestes impudiques, mais il faut qu'ils reconstituent le scénario dans lequel ils ont été pris pour pouvoir se libérer. Et c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent à ce moment-là qu'ils font à l'autre ce qu'on leur a fait, et ils vont s'amender, c'est-à-dire commencer à travailler sur eux-mêmes, le jour où ils vont se mettre du côté et retrouver la situation d'origine. C'est-à-dire qu'ils vont être honteux à leur tour. La honte va retomber sur eux. Donc il y a eu honte au départ.
Comme on dit dans la Bible, je crois, la honte retombera sur eux.
Voilà, hein, il y a la honte au départ qui les a écrasés. Ils l'infligent à l'autre dans leur acte, et finalement, quand ils ont bien analysé leur acte, ils ont honte eux-mêmes, et à ce moment-là, c'est gagné.
Alors, maintenant que nous avons tenté de faire un panorama sur les idéaux et en montrer l'importance. J'ai eu l'idée de finir cette interview en parlant d'un thème d'actualité, une activité brûlante, si on peut dire, à savoir le mouvement des Gilets jaunes. Que peut nous dire un psychanalyste à propos de ce mouvement ?
Alors, je vous le disais tout à l'heure, je viens de réagir justement sur Facebook. Je ne le fais pas souvent. Mais là, je n'ai pas pu faire autrement parce que j'ai intitulé ça « Oedipe est de retour hein ». Mais là, c'est très révélateur. Là, je ne me place pas du tout au niveau politique ou au niveau social, même si je ne nie pas les raisons politiques et sociales, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a au niveau de l'inconscient collectif, une réaction assez stupéfiante. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce président a épousé sa mère. Hein ? Alors, je le dis grosso modo, mais enfin, c'est son enseignante, quand même.
Il avait 15 ans.
Il avait 15 ans, 25 ans de plus que lui. Voilà, il a enfreint un interdit qui est vieux comme le monde. Et ce qui est stupéfiant, c'est que, au point de départ, on a plutôt regardé ça de façon favorable, en disant il a eu un sacré culot. Mais il n'empêche que dans l'inconscient collectif, c'est quand même un Oedipe. Et tous ces gens qui ont d'abord dit chapeau ont été travaillés dans leur inconscient le plus profond en disant il a osé braver un interdit que nous ne pouvons pas nous permettre. Et surtout, et c'est ça qui est peut-être le plus important, il a inversé ce qui se passe d'habitude. D'habitude, ce n'est pas les jeunes hommes qui épousent des femmes âgées, c'est des hommes âgés qui épousent des jeunes femmes. C'est comme ça depuis la nuit des temps dans notre culture. Donc on inverse un système culturel extrêmement archaïque, aussi bien dans le monde chrétien que dans le monde musulman ou dans le monde juif. Vous pourrez regarder 99% des cas, c'est des hommes par rapport à des femmes. Donc il y a une infraction à la fois par le mythe qui est derrière et par le renversement. Donc à première vue, c'est formidable. Et puis dans un deuxième temps, mais ce type, il se permet tout. S'il se permet tout, nous aussi. Et en plus, qu'est-ce qu'il mérite ? Il mérite la mort. On veut le tuer actuellement. Il y a une violence. Et vous voyez, cette violence, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis, c'est du même ordre que la violence qui nous prend, nous, à titre individuel, quand on est travaillé par un conflit, par un fantasme originaire qui nous dépasse. C'est-à-dire que tout à coup, notre peuple a été travaillé en disant, mais c'est la peste. C'est la peste, comme dans l'histoire d'Oedipe. Le peuple a été frappé par la peste. Il a fallu ça pour que Oedipe se mette en cause, il ne faut pas l'oublier. Sinon, il était avec sa mère, ça allait très bien. Donc, il a fallu qu'il se rende compte qu'il avait commis une infraction fondamentale, et à ce moment-là, il s'est crevé les yeux. Et je dirais que...
D'où l'aveuglement.
Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit qu'il est aveugle, qu'il ne voit pas, qu'il ne se rend pas compte. Donc, vous voyez, rien qu'en en restant là, c'est intéressant parce que, primo, ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'image originaire et l'image inconsciente. Et des conflits comme ça sont terribles, la preuve. Il y a, deuxièmement, une incapacité à se rendre compte, enfin, j'allais dire, à symboliser ce qui se passe. Parce que les médias, prenant ça, sont au niveau de la réalité. Il n'y a pas une réflexion psychique en disant, bon, c'est vrai qu'il a défié, mais est-ce que c'est une raison pour défier sur le même plan ? C'est-à-dire que d'un défi symbolique, et qui après tout peut être libérateur, au niveau de la vie courante, après tout, il n'y a pas de raison que ce soit que les hommes et les femmes, etc. Donc, pourquoi pas ? Mais, ça touche à quelque chose de très profond. Et ça, on ne peut pas le supporter, parce que ça touche à toutes des générations et des générations. Ce qui fait qu'au total, si on compare Trump et notre président, Trump, lui, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est dans le cadre, c'est l'homme âgé avec une femme jeune, des femmes jeunes, on peut dire, il peut tout se permettre. Le Macron, eh ben, il s'est mis du mauvais côté. Et du mauvais côté, on l'a mis d'emblée quand on a dit qu'il était homosexuel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas rendu compte, au contraire, il était très fier de se poser, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il touchait à des questions collectives, inconscientes, extrêmement importantes. Et ça, vous pouvez pas dire ça aux gens. Enfin, ils sont pris là-dedans. Parce que alors, autant je peux comprendre, hein, au niveau social, etc. Mmh. Mais enfin, la façon dont ça se passe est inadmissible. Mmh. Les violences à personam, enfin, lui couper la tête, enfin, comme vous disiez tout à l'heure, c'est toute l'histoire qui remonte, oui, c'est tout l'inconscient collectif qui remonte, c'est absolument stupéfiant, quoi.
De la terreur.
De la terreur, enfin, on se dit, mais autant on aurait compris qu'il y ait une révolution, enfin, mais autant quand ça prend des proportions comme ça, on s'est dit, il y a quelque chose de plus profond. Et en tout cas, pour l'analyste, c'est intéressant, parce que le vrai problème, c'est celui d'évolution des mentalités. Hein? Finalement, les gens ne se rendent pas compte que inconsciemment, ils refusent qu'on mette en cause une pratique vieille comme le monde, c'est-à-dire le machisme. On le critique actuellement, les mecs qui touchent les femmes, etc. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que c'est inscrit depuis la nuit des temps, enfin, on pourrait dire depuis Abraham, que l'homme doit être dominant. Et donc pervers, quelque part. La femme n'a pas le droit. Vous voyez ? C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le mythe d'Œdipe, c'est un homme. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au fond de nous-mêmes, cette égalité, le problème de la différence des sexes, est vraiment, on va dire, biaisé d'emblée par notre histoire. Et il faut le réfléchir, ça. Il ne suffit pas de dire, on va attaquer tous les gens qui font des saloperies, etc. Non, il faut se dire, on est fondé sur une histoire vieille comme le monde et qui nous conditionne sans qu'on s'en aperçoive. Et pour que ça prenne une telle violence, encore une fois, meurtrière, destructrice, sans limite à certains moments, c'est que ça a vraiment touché à des bases dont on n'a pas idée, quoi. Voilà.
Ouais, c'est les fameuses bases qui sont touchées, justement, quand il y a des mouvements. On voit ça dans toutes les révolutions, finalement.
Toutes les révolutions, quelque chose qui n'est plus...
Par exemple, Marie-Antoinette qui était accusée de coucher avec ses...
Vous voyez,
hein, c'est exactement...
On en arrive à des problèmes sexuels.
Hein. Oui, bah oui.
Lui, on ne lui dit pas, mais inconsciemment, c'est t'as couché avec ta mère. Hein. Alors nous, si toi, tu peux te permettre ça, alors nous, on peut tous permettre. Et alors, à ce moment-là, toutes les revendications arrivent. Et le malheur, c'est qu'elles arrivent à ce moment-là confondues dans un méli-mélo qui est impossible à démêler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le meilleur et le pire. Il y a le meilleur, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Enfin, puisque lui a fait ça, je vais pouvoir dire ce dont je sais. »
Il y a les idéaux dont je vous parlais tout à l'heure.
Exactement.
Il y a quand même l'idéal de vérité, de justice.
De justice, d'amour.
Il y a ça, moi, c'est ce que j'ai entendu sur les ronds-points.
Oui, oui. Donc, toutes ces choses qui sont vitales pour le peuple ont été apparemment bafouées. Et donc, mais vous voyez, avec... Enfin, en tout cas, pour l'analyste, hein, ce côté édipien est quand même important à regarder. Parce qu'il explique en grande partie le côté massif de ce qui se passe. Et surtout, indifférencié, parce que c'est ça qui est embêtant. C'est que malheureusement, quand une révolte rapproche les gens de droite, mais pas d'extrême droite, d'extrême gauche, qui font passer des choses inadmissibles... Alors qu'il y en a d'autres qui font passer des choses, mais nécessaires, c'est là que ça devient impossible à déchiffrer. Et ça fait le jeu du pouvoir. Parce qu'ils disent, vous voyez, ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir reçus chez vous, dans votre cabinet, et à bientôt.
D'accord. Bah, écoutez, moi je suis très heureux aussi de partager comme on l'a fait pendant les années d'enseignement. Vous avez toujours été aussi très actif et très stimulant. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai la mémoire qui flanche. C'est vrai que le refoulement est au centre de la théorie psychanalytique. Donc, La mémoire qui flanche, chantée par Jeanne Moreau.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleue, t'es du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur? Pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. La doudou doudou la tête, doudou doudou la voix. La doudou doudou la tête, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie.
Tiré de Pensées classées de Georges Perec, un texte étonnant sur la psychanalyse, sur sa psychanalyse qui dura environ 4 ans avec J.B. Pontalis. Il y décrit très bien le cadre analytique, unité de temps et de lieu, comme une petite tragédie où le même se répète inlassablement et où se joue ce qui fait l'inconscient et ses ruses incroyables. Les lieux d'une ruse. Pendant 4 ans, de mai 1971 à juin 1975, j'ai fait une analyse. 15 mois se sont écoulés depuis, au cours desquels j'ai recommencé peut-être 50 fois les premières lignes d'un texte qui, au bout de quelques phrases, en gros celles que je viens d'écrire, s'enlisait immanquablement dans des artifices rhétoriques de plus en plus embrouillés. Pendant 15 mois, j'ai rêvassé sur ces mots méandres, comme pendant 4 ans sur le divan, j'ai rêvassé en regardant les moulures et les fissures du plafond. Là-bas, comme ici, il était presque réconfortant de se dire qu'un jour les mots viendraient. Un jour, on se mettrait à parler, on se mettrait à écrire. Pendant longtemps, on croit que parler, cela voudra dire trouver, découvrir, comprendre, comprendre enfin, être illuminé par la vérité, mais non. Quand cela a lieu, on sait seulement que cela a lieu. C'est là. On parle. On écrit. Parler, c'est seulement parler. Simplement parler. Écrire, c'est seulement écrire. Tracer des lettres sur une feuille blanche. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je conseille parmi les nombreux livres écrits par Gérard Bonnet les titres suivants. Les idéaux fondamentaux, au PUF. La violence du voir, au PUF. Psychanalyse d'un meurtrier, absolument à lire. Un livre tout à fait extraordinaire. Payot Rivage. Voir, être vu, figure de l'exhibitionnisme. Le narcissisme, chez In Press. La perversion, une vengeance pour survivre. Gérard Bonnet est aussi le directeur de l'EPCI à Paris qui distille à toute personne intéressée par la psychanalyse un enseignement de grande qualité. Tous ces renseignements sont disponibles sur le site internet de notre radio, Radio Grand Ciel. Eh bien, au mois prochain pour une émission sur les poissons.